André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série d'émissions sur l'auteur de théâtre bien connu, Éric-Emmanuel Schmitt, avec un deuxième volet consacré à son roman devenu pièce de théâtre, Oscar et la Dame Rose. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André, bonjour Philippe et bonjour à tous.
Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Le contexte du récit d'Oscar et la Dame Rose se base sur l'histoire d'un jeune garçon prénommé Oscar, souffrant de la leucémie, qui doit séjourner à l'hôpital. Et du haut de ses 10 ans, il s'imagine avoir 7 ans. Il rencontre Mamie Rose, qu'il surnomme la Dame Rose. Elle visite les enfants hospitalisés afin de les divertir. Afin de l'aider à supporter sa maladie et la révolte d'Oscar vis-à-vis de ses parents, elle lui propose de jouer à un jeu inventé dans lequel un jour compte pour une période de 10 ans. Et petit à petit, elle parvient à améliorer le reste de la vie d'Oscar, très court, mais de façon intense. Voici un premier extrait. Il s'agit de la deuxième lettre d'Oscar à Dieu. Dans la première, il présente Mamie Rose. Il parle de sa rencontre avec elle et des confidences qu'elle lui fait. Son précédent métier était catcheuse. À présent qu'elle est âgée, et elle ne peut plus exercer à l'hôpital sans détour, elle parle de la mort inévitable qui attend Oscar. C'est la seule personne avec qui il peut en discuter. Elle suggère alors à Oscar d'écrire des lettres en s'adressant à Dieu, en lui demandant une faveur par jour. Oscar s'exécute donc. Et voici la deuxième lettre avec Philippe et Françoise.
Cher Dieu, bravo, tu as été très fort. Avant même que j'ai posté ta lettre, tu me donnes la réponse. Mais comment fais-tu ? Ce matin, je jouais aux échecs avec Einstein dans la salle de récréation lorsque Popcorn est venu me prévenir. Tes parents sont là. Mes parents ? Ben, c'est pas possible. Ils ne viennent que le dimanche. J'ai vu la voiture, une Jeep rouge avec la bâche blanche. Mais ce n'est pas possible. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à jouer avec Einstein. Mais comme j'étais préoccupé, Einstein me piquait toutes mes pièces et ça m'a encore plus énervé. Si on l'appelle Einstein, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Il paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. C'est dommage. Hein. Ça aurait été de la cervelle. Enfin, il aurait pu faire de grandes choses, Einstein. Quand j'ai vu que j'allais perdre, j'ai laissé tomber le jeu et j'ai suivi Popcorn dans la chambre qui donne sur le parking. Il avait raison, mes parents étaient arrivés. Il faut te dire, Dieu, qu'on habite loin, mes parents et moi. Je ne m'en rendais pas compte quand j'y habitais, mais maintenant que je n'y habite plus, je trouve que c'est vraiment loin. Du coup, mes parents ne peuvent venir me voir qu'une fois par semaine, le dimanche, parce que le dimanche, ils ne travaillent pas, ni moi non plus. « Tu vois que j'avais raison, » a dit Popcorn. « Combien tu me donnes pour t'avoir prévenu ? J'ai des chocolats à noisettes. » T'as plus de fraises Tagada ? Non. Ben ok pour les chocolats. Évidemment, on n'a pas le droit de donner à manger à Popcorn, vu qu'il est là pour maigrir. 98 kilos à 9 ans, pour 1m10 de haut sur 1m10 de large. Le seul vêtement dans lequel il rentre tout entier, c'est un sweatshirt polo américain. Et encore, hein, les rayures ont le mal de mer. Hein. Franchement. Comme aucun de mes copains, ni moi, on croit qu'il ne pourra jamais arrêter d'être gros. Et qu'il nous fait pitié tellement il a faim. On lui donne toujours le reste. C'est minuscule, un chocolat par rapport à une telle masse de graisse. Si on a tort, alors que les infirmières cessent, elles aussi, de lui fourrer des suppositoires. Je suis retourné dans ma chambre pour attendre mes parents. Au début, je n'ai pas vu passer les minutes parce que j'étais essoufflé. Puis je me suis rendu compte qu'ils avaient eu 15 fois le temps d'arriver jusqu'à moi. Soudain, j'ai deviné où ils étaient. Je me suis glissé dans le couloir. Quand personne ne me voyait, j'ai descendu l'escalier. Puis j'ai marché dans la pénombre jusqu'au bureau du docteur Düsseldorf. Gagné, ils étaient là. Les voix m'arrivaient de derrière la porte. Comme j'étais épuisé par la descente, j'ai pris quelques secondes pour remettre mon cœur en place. Et c'est là que tout s'est détraqué. J'ai entendu ce que j'aurais pas dû entendre. Ma mère sanglotait, le docteur Düsseldorf répétait « Nous avons tout essayé, croyez bien que nous avons tout essayé. » Et mon père répondait d'une voix étranglée, « J'en suis sûr, docteur, j'en suis sûr. » Je restais l'oreille collée à la porte de fer, ne savais plus qui était le plus froid, le métal ou moi. Puis le docteur Düsseldorf a dit, « Est-ce que vous voulez l'embrasser ?»« Je n'aurai jamais le courage, » a dit ma mère. « Il ne faut pas qu'il me voie dans cet état, » a rajouté mon père. Et c'est là que j'ai compris que mes parents étaient deux lâches. Pire, deux lâches qui me prenaient pour un lâche. Comme il y avait des bruits de chaises dans le bureau, j'ai deviné qu'ils allaient sortir et j'ai ouvert la première porte qui se présentait. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le placard à balai où j'ai passé le reste de la matinée, car peut-être que tu le sais pas, Dieu, mais les placards à balai, ça souffle de l'extérieur, pas de l'intérieur, comme si on avait peur que la nuit, les balais, les seaux et les serpillères, ben ils se barrent. De toute façon, ça ne me gênait pas d'être enfermé dans le noir, parce que je n'avais plus envie de voir personne et parce que mes jambes et mes bras ne répondaient plus tellement après le choc que ça m'avait fait, entendre ce que j'avais entendu. Vers les midis, j'ai senti que ça s'agitait pas mal à l'étage au-dessus. J'écoutais les pas, les cavalcades. Puis, on s'est mis à crier mon nom de partout. « Oscar ! Oscar !» Ça me faisait du bien de m'entendre appeler et de ne pas répondre. J'avais envie d'embêter la terre entière. Après, je crois que j'ai un peu dormi. Puis j'ai perçu les galoches traînantes de Madame Hender, la femme de service. Elle a ouvert la porte et là, on s'est fait vraiment peur. On a hurlé très fort. Elle, parce qu'elle ne s'attendait pas à me trouver là. Moi, parce que je ne me souvenais pas qu'elle était aussi noire. Ni qu'elle criait d'ailleurs aussi fort. Après, ça a été une sacrée mêlée. Ils sont tous venus, le docteur Düsseldorf, l'infirmière-chef, les infirmières de service, les autres femmes de ménage. Alors que je croyais qu'ils allaient m'engueuler, ils se sentaient tous morveux. Et j'ai vu qu'il fallait vite tirer profit de la situation. « Je veux voir Marie-Rose. »« Où étais-tu donc passé, Oscar ? Comment te sens-tu ? Je veux voir Marie-Rose. » Comment tu t'es retrouvé dans ce placard? Tu as vu quelqu'un? Tu as entendu quelque chose? Je veux voir Marie-Rose. Allez, prends un verre d'eau. Non, je veux voir Marie-Rose. Mais prends une bouchée. Non, je veux voir Marie-Rose. Du granit, une falaise, une dalle de béton. Rien à faire. Je n'écoutais même plus qu'on me disait. Je voulais voir Marie-Rose. Le docteur Düsseldorf avait l'air très contrarié par rapport à ses collègues de n'avoir eu aucune autorité sur moi. Il a fini par craquer. Qu'on aille chercher cette dame? Là, j'ai consenti à me reposer et j'ai dormi un peu dans ma chambre. Quand je me suis réveillée, Marie-Rose était là. Elle souriait.
Bravo, Oscar. Tu as réussi ton coup. Tu leur as foutu une sacrée gifle. Mais le résultat, c'est qu'ils me jalousent maintenant.
On s'en fout.
Ce sont des braves gens, Oscar. De très braves gens.
Je m'en fous.
Mais qu'est-ce qui ne va pas?
Le docteur Düsseldorf a dit à mes parents que j'allais mourir. Et ils se sont enfuis. Je les déteste. Je lui ai tout raconté dans le détail, comme à toi, Dieu.
A fait Mamie Rose. Ça me rappelle mon tournoi à Béthune contre Sarah Youplaboum, la catcheuse du corps huilé, l'anguille des rings, une acrobate qui se battait presque nue et qui te filait entre les mains lorsque tu essayais de lui faire une prise. Elle ne combattait qu'à Béthune, où elle gagnait chaque année la coupe de Béthune. Oh, moi, je la voulais, la coupe de Béthune.
Mais qu'est-ce que vous avez fait, Marie-Rose?
Des amis à moi lui ont jeté de la farine lorsqu'elle est montée sur le ring. Huile plus farine, ça faisait une jolie chapelure. En trois croix et deux mouvements, je l'ai envoyée au tapis, la Sarah Youplaboum. Après moi, on ne l'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue panée.
Bon, mais ce que j'aurais, Mamie Rose, mais je ne vois pas vraiment le rapport.
Moi, je le vois très bien. Il y a toujours une solution, Oscar. Il y a toujours un sac de farine quelque part. Tu devrais écrire à Dieu. Il est plus fort que moi.
Même pour le catch?
Même pour le catch. Dieu touche sa bille. Essaie, mon petit Oscar. Qu'est-ce qui te fait le plus mal?
Je déteste mes parents.
Ah, alors déteste-les très fort.
Oh, mais c'est vous qui me dites ça, Mamie Rose?
Oui. Déteste-les très fort. Ça te fera un os à ronger. Et quand tu l'auras fini, ton os, tu verras que ce n'était pas la peine. Raconte tout ça à Dieu et dans ta lettre, demande-lui donc de te faire une visite.
Il se déplace?
À sa façon, pas souvent. Rarement même.
Pourquoi? Il est malade lui aussi? Là, j'ai compris au soupir de Mamie Rose qu'elle ne voulait pas m'avouer que toi aussi, Dieu, tu es en mauvais état.
Tes parents ne t'ont jamais parlé de Dieu, Oscar?
Laissez tomber, mes parents, ils sont cons.
Bien sûr, mais est-ce qu'ils t'ont jamais parlé de Dieu?
Si, mais juste une fois, mais pour dire qu'ils n'y croyaient pas, eux. Ils croient juste au Père Noël.
Ils sont si cons que ça, mon petit Oscar.
Mais pouvez-vous imaginer? Le jour où je suis revenu de l'école en leur disant qu'il fallait arrêter de déconner, que je savais, comme tous mes copains, que le Père Noël n'existait pas, ils avaient l'air d'en tomber d'un nuage. Comme j'étais plutôt furax d'être passé pour un crétin dans la cour de récréation, ils m'ont juré qu'ils n'avaient jamais voulu me tromper, et qu'ils avaient cru, eux, sincèrement, que le Père Noël existait, et qu'ils étaient très déçus, mais alors là, très déçus, d'apprendre que ce n'était pas vrai. De vrai taré, je vous dis, mamie Rose.
Donc, ils ne croient pas en Dieu?
Non.
Et ça ne t'a pas intrigué?
Oh ben, si je m'intéresse à ce que pensent les cons, hein, je n'aurai plus de temps pour ce que pensent les gens intelligents.
Oh ben, tu as raison. Mais le fait que tes parents, qui selon toi sont des cons...
Oui, de vrais cons, Amir Brosson.
Donc, si tes parents qui se trompent n'y croient pas, pourquoi toi, justement, ne pas y croire et lui demander une visite?
D'accord. Mais vous m'avez pas dit qu'il est crabataire?
Non, il a une façon très spéciale de rendre visite. Il te rend visite en pensée, dans ton esprit.
Ça m'a plu. J'ai trouvé ça très fort, hein. Ma mère Rose a ajouté...
Tu verras, ces visites font beaucoup de bien.
Ok, je lui en parlerai. Enfin, pour l'instant, les visites qui me font le plus de bien, ce sont les vôtres. Marie Rose a souri, mais presque timidement s'est penchée pour me faire un bisou sur la joue. Elle n'osait pas aller jusqu'au bout, elle mendiait de l'œil la permission. Allez-y, embrassez-moi. Je ne dirai pas aux autres. Je ne veux pas casser votre réputation d'ancienne catcheuse. Ses lèvres se sont posées sur ma joue et ça m'a fait plaisir. Ça m'a donné chaud, avec des picotements, ça sentait la poudre et le savon. Quand revenez-vous?
Je n'ai pas le droit de venir que deux fois par semaine.
C'est pas possible ça, mamie Rose. Je vais pas attendre 3 jours.
Mais c'est le règlement.
Mais qui fabrique le règlement?
Le docteur Dusseldorf.
Le docteur Dusseldorf? En ce moment? Bah, il fait dans sa culotte quand il me voit. Allez lui demander la permission, mamie Rose. Je plaisante pas, hein? Elle m'a regardé avec hésitation. « Je ne plaisante pas, hein. Si vous ne venez pas me voir tous les jours, moi, j'écris pas à Dieu. »
Oscar poursuit sa correspondance avec Dieu. Dans ses lettres suivantes, il parle de ses compagnons d'infortune présents à l'hôpital, notamment Peaky Blue, dont il est amoureux, et qui rencontre un problème sanguin qui a pour effet principal de donner un teint bleuté à sa peau. Malheureusement, l'affection n'est pas réciproque et de surcroît, Popcorn, un autre patient un peu jaloux, s'interpose lorsqu'Oscar veut protéger Peaky Blue des fantômes. Sandrine, une autre jeune fille, apprécie réellement Oscar et c'est donc vers elle qu'il se rend et il l'embrasse. Les parents d'Oscar arrivent à ce moment précis, ce qui le fait fuir, car il ne veut pas les rencontrer. Il se plonge dans les pensées tout en écoutant la musique du ballet Casse-Noisette. Et plus tard, Marie-Rose encourage Oscar en lui confiant que Popcorn n'est qu'un bluffeur. Après un baiser échangé entre Peggy et Oscar, ce dernier demande à Dieu de pouvoir épouser Peggy. Dans la 4e lettre, Oscar arrive à l'âge de 30 ans, d'après le système de calcul de Mamie Rose, et se marie, à sa façon, avec sa bien-aimée Peggy. Une nuit, il entend des bruits et craint que les fantômes s'en prennent à son épouse, mais il n'en est rien, car il s'agit de Bacon, un enfant brûlé, dont les douleurs le font hurler. Peggy accorde le droit à Oscar de dormir avec elle, mais c'est sans compter la désapprobation du personnel médical. Mais Mamie Rose intervient. Et voici un extrait de cette 4e lettre avec Philippe et Françoise.
Est-ce que vous allez foutre la paix à ces enfants? Qui devez-vous satisfaire, les patients ou le règlement? J'en ai rien à cirer, moi, de votre règlement, je m'assois dessus. Maintenant, silence! Allez vous crêper le chignon ailleurs. On n'est pas dans un vestiaire ici.
C'est sans réplique, hein. Comme toujours avec Mamie Rose. Elle m'a ramené dans ma chambre et j'ai un peu dormi. Au réveil, on a pu causer.
Mais alors, c'est du sérieux, Oscar, avec Peggy?
C'est du béton, Mamie Rose. Je suis super heureux. On s'est mariés cette nuit.
Mariés?
Oui. On a fait tout ce que font un homme et une femme qui sont mariés.
Ah bon?
Mais pour qui me prenez-vous? J'ai... Quelle heure est-il? J'ai 20 ans passés, je mène ma vie comme je l'entends, non?
Sûr.
Et puis figurez-vous que tous les trucs qui me dégoûtaient avant, quand j'étais jeune, eh bien les baisers, les caresses, eh bien finalement ça m'a plu, hein. C'est marrant comme on change, non?
Je suis ravi pour toi, Oscar, tu pousses bien.
Il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas fait, c'est le baiser en mélangeant les langues. Peggy Blue avait peur que ça lui donne des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'elle a raison.
Ah bon? C'est possible d'avoir les enfants si on s'embrasse sur la bouche? Alors, je vais en avoir avec la chinoise.
Calme-toi, Oscar. Il y a quand même peu de chance. Très peu.
Elle avait l'air sûre de son coup, mamie Rose. Et ça m'a calmé un peu parce que, faut te dire, à toi, Dieu, rien qu'à toi, qu'avec Peggy Blue, une fois, voire deux, voire plus, on avait mis la langue. J'ai dormi un peu, on a déjeuné ensemble, mamie Rose et moi, et j'ai commencé à aller mieux. C'est fou comme j'étais fatigué ce matin.
C'est normal. Entre 20 et 25 ans, on sort la nuit, on fait la fête, on mène une vie de patachon, on ne se connaisse pas assez, ça se paie. Si on allait voir Dieu...
Ah, ça y est, vous avez son adresse?
Je pense qu'il est à la chapelle.
Mamie Rose m'a habillé comme si on partait pour le pôle Nord. Elle m'a pris dans ses bras et m'a conduit à la chapelle qui se trouve au fond du parc de l'hôpital, au-delà des pelouses gelées. Enfin, je ne vais pas t'expliquer où c'est, vu que c'est chez toi. Bah, ça m'a fait un choc quand j'ai vu ta statue. Enfin, quand j'ai vu l'état dans lequel tu étais, presque tout nu, tout maigre sur ta croix, avec des blessures partout, le crâne qui saigne sous les épines et la tête qui ne tenait même plus sur le cou. Ça m'a fait penser à moi. Ça m'a révolté. Si j'étais Dieu, moi, comme toi, je ne me serais pas laissé faire. Mamie Rose, soyez sérieuse. Vous qui êtes catcheuse, vous qui avez été une grande championne, vous n'allez pas faire confiance à ça.
Et pourquoi, Oscar? Accorderais-tu plus de crédit à Dieu si tu voyais un culturiste avec le beefsteak ouvragé, le muscle saillant, la peau huilée, la petite coupe courte et le mini-slip avantageux? Réfléchis, Oscar. De quoi te sens-tu le plus proche? D'un Dieu qui n'éprouve rien ou d'un Dieu qui souffre?
De celui qui souffre, évidemment. Mais si j'étais lui, si j'étais Dieu, si, comme lui, j'avais les moyens, j'aurais évité de souffrir.
Personne ne peut éviter de souffrir. Ni Dieu, ni toi. Ni tes parents, ni moi.
Bon, d'accord, mais pourquoi souffrir?
Justement, il y a souffrance et souffrance. Regarde mieux son visage. Observe. Est-ce qu'il a l'air de souffrir?
Non, c'est curieux, il n'a pas l'air d'avoir mal.
Ben voilà. Il faut distinguer deux peines, mon petit Oscar. La souffrance physique et la souffrance morale. La souffrance physique, on l'a subie. La souffrance morale, on l'a choisie.
Je ne comprends pas.
Si on t'enfonce des clous dans les poignets ou les pieds, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir mal, tu subis. En revanche, à l'idée de mourir, tu n'es pas obligé d'avoir mal. Tu ne sais pas ce que c'est. Ça dépend donc de toi.
Vous en connaissez, vous? Des gens qui se réjouissent à l'idée de mourir?
Oui, j'en connais. Ma mère était comme ça. Sur son lit de mort, elle souriait de gourmandise. Elle était impatiente et elle avait hâte de découvrir ce qui allait se passer.
Là, je ne pouvais plus argumenter. Comme ça m'intéressait à savoir la suite, j'ai laissé passer un peu de temps en réfléchissant à ce qu'elle me disait.
Mais la plupart des gens sont sans curiosité. Ils s'accrochent à ce qu'ils sont, comme le pouls dans l'oreille d'un chauve. Prends Plum Pudding, par exemple, ma rivale irlandaise. 150 kilos à jeun et en slip juste avant sa Guinness. Elle me disait toujours, « Moi, désolée, je ne mourrai pas. Je ne suis pas d'accord, j'ai pas signé. » Elle se trompait. Personne ne lui avait dit que la vie devait être éternelle. Personne.
Elle s'entêtait à le croire. Elle se révoltait, elle refusait l'idée de passer, elle devenait engagée. Elle a fait une dépression, elle a maigri, elle a arrêté le métier. Elle ne pesait plus que 35 kilos, on aurait dit une arête de sol. Elle s'est cassée en morceaux. Tu vois, elle est morte quand même, comme tout le monde, mais l'idée de mourir lui a gâché la vie. Elle était conne, Plum Pudding, mamie Rose?
Comme un pâté de campagne. Mais c'est très répandu, le pâté de campagne, très courant.
Là aussi, j'ai opiné de la tête parce que j'étais assez d'accord.
Les gens craignent de mourir parce qu'ils redoutent l'inconnu. Mais justement, qu'est-ce que l'inconnu? Je te propose, Oscar, de ne pas avoir peur, mais d'avoir confiance. Regarde le visage de Dieu sur la croix. Il subit la peine physique, mais n'éprouve pas de peine morale car il a confiance. Du coup, les clous le font moins souffrir. Il se répète, ça me fait mal, mais ça ne peut pas être un mal. Voilà, c'est ça le bénéfice de la foi. Je voulais te le montrer.
Ok, mamie Rose. Quand j'aurai la trouille, je me forcerai à avoir confiance. Elle m'a embrassé, et finalement on était bien dans cette église déserte avec toi, Dieu, qui avait l'air si apaisé. Au retour, j'ai dormi longtemps, j'ai de plus en plus sommeil, comme une fringale. En me réveillant, j'ai dit à Marie-Rose, « En fait, je n'ai pas peur de l'inconnu, c'est juste que ça m'ennuie de perdre ce que je connais. »
Je suis comme toi, Oscar. Si on proposait à Peggy Blue de venir prendre le thé avec nous?
L'opération de Peggy approche à grands pas. Et la demande à Dieu d'Oscar dans cette lettre est qu'elle soit une réussite. Et l'opération de Peggy se passe très bien, tellement qu'elle devient Rose de jour en jour. Oscar aura l'opportunité de rencontrer les parents de sa femme. Il leur voue un grand respect. Et lorsque ces derniers partent de l'hôpital, il confie Peggy à Oscar. La journée est très famille et c'est sur cette note positive que Oscar termine sa lettre en ayant atteint ses 40 ans. Malheureusement, un drame sentimental se joue. Lorsque Popcorn apprend que Oscar et Sandrine se sont embrassés, il s'en va rapporter la chose à Peggy qui ne tient pas à écouter les explications d'Oscar qui essaie tant bien que mal de se défendre. Elle décide de rompre avec lui. Et c'est alors qu'une patiente trisomique, Brigitte, rend visite à Oscar dans sa chambre et l'embrasse. Et pour Oscar, c'est un nouveau fait qui lui donne malheureusement une réputation de cavaleur. Il ressent toujours autant l'amour pour Peggy et Marie-Rose et c'est tant bien que mal de lui redonner le courage. La fin de la journée arrive en même temps que les 50 ans d'Oscar. Arrivé au jour de Noël, Oscar parvient à faire la paix avec Peggy Blue. Toutefois, il doit se résoudre à la laisser et ses parents étant venus fêter Noël avec lui. Mais cette idée ne lui plaît pas du tout car s'imaginer de devoir passer la soirée avec ses parents qui lui offriront une tonne de cadeaux, lui donnant envie de fuguer. Avec l'aide d'Einstein, Bacon et Popcorn, il parvient à se cacher dans la voiture de Mamie Rose et s'endort. Arrivé chez elle, il sonne à la porte au grand étonnement de Mamie Rose. Voici un extrait de cette 7e lettre.
« Tout le monde te cherche à l'hôpital, Oscar. C'est le branle-bas de combat. Tes parents sont désespérés. » Ils ont prévenu la police.
Ça ne m'étonne pas d'eux. Hein. S'ils sont assez bêtes pour croire que je vais les aimer quand j'aurai les menottes.
Mais qu'est-ce que tu leur reproches?
Ils ont peur de moi. Ils n'osent pas me parler. Et moi, ils osent. Plus j'ai l'impression d'être un monstre. Pourquoi est-ce que je les terrorise? Je suis si moche que ça? Je pue? Je suis devenu idiot sans m'en rendre compte?
Mais ils n'ont pas peur de toi, Oscar. Ils ont peur de la maladie.
Ma maladie, ça fait partie de moi. Ils n'ont pas à se comporter différemment parce que je suis malade. Ou alors, ils ne peuvent aimer qu'un Oscar en bonne santé.
Mais ils t'aiment, Oscar, ils me l'ont dit.
Ou alors parler.
Oui, sont très jaloux que nous entendions si bien. Non, pas jaloux, triste. Triste de ne pas y parvenir aussi.
J'ai haussé les épaules, mais j'étais déjà un peu moins en colère. Mamie Rose m'a fait un deuxième chocolat chaud.
Tu sais, Oscar, tu vas mourir un jour. Mais tes parents, ils vont mourir aussi.
J'étais étonné par ce qu'elle me disait. Je n'y avais jamais pensé.
Oui, ils vont mourir aussi, tout seuls. Et avec le remords terrible de n'avoir pas su se réconcilier avec leur seul enfant, un Oscar qu'ils adoraient.
Dites pas des choses comme ça, Mamie Rose. Ça me fout le cafard.
Pense à eux, Oscar. Tu as compris que tu allais mourir parce que tu es un garçon très intelligent. Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que toi qui meurs. Tout le monde meurt. Tes parents un jour, moi un jour.
Oui. Mais enfin, tout de même, je passe devant.
C'est vrai, tu passes devant. Cependant, est-ce que, sous prétexte que tu passes devant, tu as tous les droits? Et le droit d'oublier les autres?
J'ai compris, Mamie Rose. Appelez-les. Voilà, Dieu. La suite, je te la fais brève parce que j'ai le poignet qui fatigue. Mamie Rose a prévenu l'hôpital, qui a prévenu mes parents, qui sont venus chez Mamie Rose et on a tous fêté Noël ensemble. Quand mes parents sont arrivés, je leur ai dit « Excusez-moi, j'avais oublié que vous aussi, un jour, vous alliez mourir ». Je ne sais pas ce que ça leur a débloqué, cette phrase, mais après, je les ai retrouvés comme avant. Et on a passé une super soirée de Noël.
Arrivé à l'âge de 80 ans, c'est le temps de la réflexion pour Oscar sur la vie, la mort, Dieu et la foi en lui. Mamie Rose l'aide dans cette étape et Oscar finit par dire au docteur Dusseldorf qu'il doit arrêter de se sentir coupable de sa mort prochaine. À la fin, Oscar vit un moment douloureux de séparation avec Peggy, qui rentre chez elle suite à sa guérison. À l'aube, Oscar reçoit la visite de Dieu, qui lui confie un secret. Regarde chaque jour le monde comme si c'était la première fois. Oscar comprend à ce moment la différence entre les hommes et Dieu. Il suit son conseil. Voici pour terminer notre émission un extrait de la fin du roman « Philippe et Françoise ».
Cher Dieu, aujourd'hui j'ai 100 ans. Comme Marie-Rose, je dors beaucoup, mais je me sens bien. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court, on serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou à 20 ans, mais à 100. Quand on ne peut plus bouger, faut user de son intelligence. Je ne sais pas si je les ai bien convaincus. Visite-les. Fini le travail, moi je fatigue un peu. À demain, bisous. Oscar, cher Dieu, 110 ans, ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir. Oscar.
Cher Dieu, le petit garçon est mort. Je serai toujours Dame Rose, mais je ne serai plus Mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il s'est éteint ce matin, pendant la demi-heure où ses parents et moi, nous sommes allés prendre un café. Il a fait ça sans nous. Je pense qu'il a attendu ce moment-là pour nous épargner. Comme s'il voulait nous éviter la violence de le voir disparaître. C'était lui, en fait, qui veillait sur nous. J'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Oscar y habite et je ne peux pas le chasser. Il faut que je garde encore mes larmes pour moi, jusqu'à ce soir, parce que je ne veux pas comparer ma peine à celle insurmontable de ses parents. Merci de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle. J'inventais des légendes, je m'y connaissais même en catch. Grâce à lui, j'ai ri et j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. Je suis pleine d'amour, ça me brûle. Il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir. À bientôt. Mamie Rose, post-scriptum. Les trois derniers jours, Oscar avait posé une pancarte sur sa table de chevet. Je crois que ça te concerne. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ».
Merci Françoise, merci Philippe, à très bientôt pour de prochaines lectures. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « Des pensées que tu ne dis pas, ce sont les pensées qui pèsent, qui s'incrustent, qui t'alourdissent, qui t'immobilisent, qui prennent la place des idées neuves et qui te pourrissent. » C'est dans « Oscar et la Dame Rose » en 2002. Éric Emmanuel Schmitt. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radioaltitudefm.com et toutes ces informations, bien d'autres, sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé, sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.